Mon frère, ma sœur, mon ami, toi qui es venu ce matin prendre le temps d'écouter la parole de Dieu, renouveler tes forces physiques et spirituelles par le chant, la prière, rencontrer ton prochain au milieu de ton activité familiale ou de ton travail, sois sans crainte. Le Seigneur est là, il t'appelle, il t'invite à l'écouter et à le recevoir ici et maintenant. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père en son Fils Jésus, le Christ, notre Sauveur et notre Frère. Bienvenue à chacun, chacune pour ce temps de culte. Bienvenue dans ce lieu de prière, que vous soyez des habitués de ce lieu ou que vous veniez ce matin pour la première fois, vous êtes ici chez vous. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent par le site internet ou celui des réseaux sociaux. Nous sommes en communion les uns avec les autres. Bienvenue à tous les enfants de l'éducation biblique, ainsi qu'à leurs parents, leurs familles, leurs amis. Et merci à tous les musiciens qui nous accompagnent ce matin. Tout d'abord, David Cassan à l'orgue et le chœur de l'oratoire dirigé par Alexandre Korovitch. Prions ensemble. Éternel Dieu de la vie, nous sommes rassemblés ce matin dans ce lieu de prière et de communion. Permets que nous soyons une communauté fraternelle, accueillante, joyeuse pour celles et ceux qui nous entourent. Envoie ton Esprit Saint sur chacun, chacune de nous, et notre foi fera grandir notre amour du prochain. Béni sois-tu pour la fidélité de ta présence, la fidélité de ton amour. Amen. Pour ouvrir ce culte, je vous invite à prendre le premier chant du livret liturgique qui est inséré au tout début du psautier français. Il s'agit du temps de l'éducation biblique. Nous chanterons le premier répond qui s'intitule « Ton nom, Seigneur, est un nom magnifique ». Je vous invite à vous lever. Éternel, nous te louons parce que tu nous rassembles avec nos différences. Nous te louons parce que tu te donnes à chacun, chacune. Oui, tu te donnes à nous, Éternel, non pas comme une chose ou un objet, mais tu te donnes à nous sans compter, sans calculer, sans mesurer ton temps ni ta peine. Tu crées en nous un cœur nouveau. Par ta loi, tu donnes à chaque homme un espoir nouveau. Tes commandements nous tracent le chemin le plus droit, le chemin de vie. Tes jugements sont vrais, l'homme humble en reçoit la paix. En toi, l'être humain retrouve l'apaisement. Éternel, nous te louons, nous te bénissons. Amen. Nous allons chanter maintenant dans le psautier français, le psaume 121A, 121A, qui s'intitule « Vers les monts, je lève les yeux ». Bon, d'accord, ce psaume n'est pas très connu de nos oreilles oratoriennes, on va dire, mais David va nous le jouer une fois en entier et ensuite nous chanterons les quatre strophes. Merci beaucoup, mais faut-il rappeler tout de même que le psaume est un chant d'assemblée et que du coup, on a quand même perdu à peu près toute l'assemblée. Heureusement, on avait les paroles. Prenez place. Alors justement, écoutons la volonté de Dieu à notre égard. Non seulement pour aujourd'hui, mais pour les jours qui viennent. Vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Et par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Car toute loi se résume dans ce seul commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Prions ensemble. Éternel, que se lève sur la dureté de notre cœur la douceur de ton visage. Que se lève sur la folie de notre orgueil l'humilité de ton cœur. Que se lève sur la tristesse de nos fautes la joie de ton pardon. Que se lève sur le sommeil de notre mort la clarté de ton éternité. Que se lève sur nos soumissions, nos dépendances, la liberté des enfants de Dieu. Que se lève sur notre angoisse la paix de ton amour. Nous te le demandons, que partout dans le monde s'accomplisse ta promesse, soit que nous croyons, soit que nous doutions, nous te rendons grâce pour ton pardon en Jésus-Christ, le Sauveur qui était, qui est et qui vient. Amen. Pour accueillir la grâce que Dieu nous renouvelle, je vous invite à vous lever. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque ait foi en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Chantons à Dieu notre reconnaissance. Nous confesserons notre foi avec un texte du pasteur Pierre Fatt. Dieu, je le cherche sans jamais le trouver. Quand je m'adresse à lui, j'espère qu'il m'entend, mais je n'en sais rien. On m'a dit qu'il est lumière, nourriture et vie. Amour, justice et paix. Je voudrais le croire, mais ce sont des hommes qui m'ont dit tout cela. Comment une parole d'homme peut-elle devenir parole de Dieu? Pourtant, je crois que les hommes de la Bible, Moïse et les prophètes, n'auraient jamais parlé comme ils l'ont fait s'ils n'avaient pas été inspirés par la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est le même esprit qui anima Jésus de Nazareth et lui fit prendre conscience dès son enfance que Dieu était son Père. Jamais ses actes n'ont contredit ses paroles. Il est mort pour ne pas se renier. Je crois que Jésus est le Christ, l'envoyé de Dieu. Il est pour moi le chemin qui conduit à Dieu. C'est encore l'Esprit qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je crois l'amour plus fort que la mort. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, d'éternité en éternité. Prenez place. Nous lirons ce matin un extrait du livre des psaumes. Le psaume 121, que je prendrai dans la traduction de la Colombe. Cantique pour les montées. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point. ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à toujours. Merci pour cette parole donnée à chacun, chacune aujourd'hui. Qu'elle puisse nous rejoindre exactement là où nous en sommes. Amen. Dans le recueil Louange et prière, le petit recueil bleu qui est à votre disposition, nous prendrons maintenant le chant du cantique numéro 261, les strophes 1 et 2. Pendant ce temps, ma collègue Béatrice partira avec les enfants pour le mini-culte à la maison presbytérale. Et aussi avec toutes les monitrices. Je vous invite à vous lever. Prenez place. Prions ensemble. Éternel, ta parole est comme l'eau. Rafraîchis-nous à sa source. Plonge-nous dans son courant. Entraîne-nous vers la mer. Ta parole est comme le feu, qu'elle nous éclaire sans nous éblouir, qu'elle nous réchauffe sans nous brûler, qu'elle nous embrase sans nous dévorer. Ta parole est comme le ciel, élargis-nous en elle, pour que nous connaissions la hauteur et la profondeur de tout ce qui est. Ta parole est comme la terre. Enracine-nous en elle, pour que nous éprouvions la solidité et la constance de tout ce que nous donne, exige et promet. Amen. Amis, frères et sœurs, si en entendant les paroles de ce psaume, vous imaginez quelqu'un en train de peiner sur un chemin de montagne, par exemple, eh bien, vous avez tout à fait raison. Le psaume dont nous venons d'entendre la lecture commence par ces mots « chant pour les montées ». Et nous pouvons nous souvenir à juste titre que les psaumes sont des cantiques, ou plutôt des louanges chantées, composées pour la majeure partie d'entre eux par le roi David, dont on nous a signalé ses talents de poète et de musicien. Mais au fur et à mesure que nous pénétrons l'univers des psaumes, on s'aperçoit que de nombreux auteurs sont cités et que ce travail relève de la minutie pour la mise en forme et l'organisation de l'ensemble des psaumes. En effet, le livre des psaumes tel qu'il nous est parvenu aujourd'hui est l'aboutissement d'une longue tradition de méditation, de rédaction de prières avec une mise en forme liturgique, musicale. Ces psaumes étaient chantés accompagnés d'un instrument à cordes et en fait, l'existence d'un texte de psaume est indissociable de celle de la musique. L'emploi de ces psaumes dans la liturgie trouvera son essor à l'époque du Second Temple, après l'exil, les prêtres disposant alors d'instruments divers, luth, flûte et même trompette. Vous trouverez la liste complète des instruments de musique dans le psaume 150 qui conclut le psautier. Et encore aujourd'hui, les psaumes font partie des liturgies chrétiennes dont l'usage a été prolongé par l'orgue, joué en église avec ses registres multiples. Les exégètes ont classé l'ensemble des psaumes en 5 catégories, un peu comme le miroir de la Torah, un miroir de la loi, contenu dans les 5 premiers livres de la Bible. D'ailleurs, le réformateur Martin Luther présentait le livre des psaumes comme une petite Bible à l'intérieur de la grande Bible. Qu'on appelle donc le psautier une petite Bible ? Tout ce que contient la Bible y est en effet consigné d'une manière aussi parfaite que concise, ce qui en fait un petit enchiridion, autrement dit un manuel de la vie du croyant. Les psaumes réécrits à la Réforme pour être chantés en assemblée ont accompagné les hommes, les femmes et les enfants dans leur chemin de foi, mais aussi dans les persécutions. Les psaumes sont devenus en quelque sorte des chants symbolisant leur résistance lorsque ces nouveaux croyants furent inquiétés dans la pratique de leur foi, quand ils furent obligés de quitter leur pays ou lorsqu'ils se retrouvèrent prisonniers. Je pense aux femmes enfermées à la tour de Constance et les habitants d'Aigues-Mortes pouvaient entendre les psaumes chantés par les prisonnières, scandant ainsi les heures des jours et des nuits. Le psautier réécrit par Clément Marot et Théodore de Bèze et mis en musique par Claude Goudimel, entre autres, tient encore aujourd'hui une place d'honneur dans de nombreux cultes luthéraux réformés, mais aussi évangéliques, de langue française. Le psaume 121 fait partie des 15 chants de montée contenus entre les psaumes 120 et 134, en hébreu les Mahalot. C'est le deuxième chant que nous avons entendu. Ces psaumes étaient chantés par les pèlerins du peuple d'Israël qui marchaient vers Jérusalem, en tout cas 3 fois dans l'année, aux fêtes de la Pâque, de Pentecôte, mais aussi à l'automne, la fête des cabanes ou encore des tentes ou encore des tabernacles. Et les psaumes sont avant tout la prière du peuple d'Israël tout entier. Ce peuple marche vers Jérusalem, mais également vers son Dieu. Et c'est bien une montée vers Jérusalem, puisque la ville est en hauteur. Mais certains ont pensé que ces psaumes étaient chantés sur les marches de l'escalier du temple, ou même même peut-être pas à pas dans certaines processions, d'où la traduction « psaume des degrés » qui apparaît dans la traduction biblique de la Vulgate, la traduction latine de la Bible. Ce psaume 121, c'est un psaume que nous lisons dans les temps difficiles, dans les temps d'incertitude, de remise en question. Si ce chant a aidé les pèlerins pour la montée à Jérusalem, plus profondément, ce psaume a une autre vocation, celle d'élever celui ou celle qui le dit dans son intériorité personnelle, spirituelle. Qui d'entre nous ne s'est pas retrouvé au moins une fois en train de marcher sur un sentier de randonnée? Et qui d'entre nous ne s'est pas retrouvé à la croisée des chemins au sens propre comme au sens figuré? Pour ma part, j'ai souvent partagé ce psaume avec les personnes détenues qui arrivaient tout juste en détention et qui devaient faire face au choc carcéral inévitable. Et ce texte a aidé pour débuter un accompagnement. Si ce chant commence par un appel au secours, qui symbolise au fond tout cri de détresse prononcé par quelqu'un en danger, quel que soit ce danger, il y a dans ce psaume une réponse confiante qui est dite presque sans attendre. Celui qui offre son secours, c'est le Seigneur, c'est Yahvé, ce tétragramme imprononçable, parce que le prononcer, le dire, c'est déjà le réduire. Alors de nombreuses traductions ont choisi le vocable de Seigneur, qui confère à Dieu une certaine toute-puissance. D'autres, comme la traduction Second ou la Colombe, ont choisi le vocable de l'Éternel, qui rappelle que le tétragramme est construit sur la racine du verbe « être ». Je suis qui je suis, ou je suis qui je serai, dévoilé à Moïse lors de la rencontre au buisson ardent, et qui rappelle un Dieu de miséricorde qui accompagne celui ou celle qu'il appelle ou qui appelle. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, pouvons-nous lire dans de nombreuses traductions. Et je reprends les mots du pasteur Marc Pernot, qui a fait cette remarque dans l'un de ses commentaires, qu'il a partagé ici en son temps lors des pauses du mercredi midi. Je cite « Il y a une faute de traduction courante dans bien des versions de ce psaume, mettant l'Éternel qui a créé le ciel et la terre au passé, alors qu'il y a bien un participe présent ici pour le verbe « créer ». Et il est bien question ici de Dieu comme poursuivant encore son œuvre de création dans le monde et en nous. Ce monde est encore en genèse, avec une part de chaos, mais également de belles choses. Et Dieu y travaille, il est source d'évolution dans le présent, nous dit ce psaume. Et il nous y invite à regarder vers le haut, à nous associer à Dieu avec intelligence, espérance, mais aussi dans la solidarité avec notre prochain. » Fin de citation. Alors comment ne pas mentionner aussi le noyau central de ce psaume avec la citation 6 fois de suite de ce mot « gardien » ? L'Éternel est celui qui te garde, il est ton gardien, au sens de celui qui protège, qui prend soin, qui préserve, qui veille sur. 6 fois, en si peu de versets, cela ressemble à une conviction si intense qu'elle se transforme presque en confession de foi. Et c'est l'être tout entier qui est préservé, de l'âme au souffle, des pieds à la tête, avec cette allusion au mauvais coup de soleil, mais aussi au mauvais coup de lune, aussi nocifs les uns que les autres, finalement. symbolisant au fond tout ce qui peut tenter de détruire l'être humain devenu faible et vulnérable, non seulement par sa marche physique, mais aussi décapé, mis à nu par sa démarche spirituelle. Comment recevons-nous ce psaume 121 que nous venons d'entendre? À quel mot sommes-nous rendus sensibles? Nombreux sont celles et ceux qui se plaignent du silence de Dieu, mais peut-être faut-il se réconcilier avec ce silence pour écouter par-delà le silence. Et aujourd'hui, entendre la voix de Dieu, comme nous disons si facilement, cela passe par l'écoute de la parole, celle que nous lisons dans la Bible et en particulier. Bien sûr, il y a d'autres livres, d'autres traditions religieuses qui invitent à entendre la voix de Dieu différemment. Mais puisqu'on se réfère à la Bible, c'est d'être attentif personnellement à la manière dont les textes bibliques résonnent en chacun de nous. Être attentif aussi comment ces textes parlent aux autres autour de nous. C'est prendre conscience de la façon dont nous nous sentons rejoints par cette parole qui va devenir particulière parce qu'on va la distinguer parmi d'autres comme étant une vérité pour nous-mêmes. Celle que personne d'autre ne peut penser à notre place, ni nous imposer. Parfois, il arrive que l'on rencontre des personnes qui s'octroient le droit de dire ce que Dieu veut pour nous, alors que nous découvrons que Dieu parle à celui qui l'écoute tout à fait autrement. Dans les jours que sont les nôtres, si nous ne savons pas toujours quoi répondre à celles et ceux qui nous interpellent et nous disent « Mais où est Dieu et qui est Dieu ?» en particulier lorsque le monde se fait le théâtre de tant de malheurs insupportables, où chaque jour les droits humains sont bafoués, que la liberté d'expression ou le développement de l'esprit critique sont réprimés par la force, la violence. En Iran ou ailleurs, au nom de Dieu, ou ailleurs dans d'autres pays, au régime totalitaire et même par le meurtre. Dans le cas de Samuel Paty, il y a 2 ans, peut-être sommes-nous tentés de croire que la parole de Dieu se fait rare. En tout cas, notre témoignage se fait plus faible et vacillant, comme si la lumière de Dieu ne brillait plus assez fort. Alors il est urgent de se mettre à l'écoute de cette parole, de l'approfondir, d'en rechercher, d'en discerner le sens pour aujourd'hui, seul ou ensemble, afin qu'une nouvelle page de notre histoire humaine puisse s'ouvrir et continuer de s'écrire, de se dire. Tout à l'heure, nous avons chanté le psaume 121, du moins nous avons tenté, dans la version du psautier français, dont le texte initial est de Théodore de Bèze, mais réactualisé par Roger Chapal. Et dans cette version, dans cette interprétation, ce n'est pas seulement une protection physique qui est promise aux pèlerins, mais cette protection s'élargit à l'ensemble de l'être humain, moral, intellectuel, avec cette idée que cette protection passe par son propre discernement des choses à dire et à faire, et que c'est cela qui garantit l'intégrité de sa personne, tant physique que morale, tant spirituelle qu'intellectuelle. Relisez le texte. Du mal, ton Dieu te gardera. Du doute et de l'erreur, il gardera ton cœur. Il nous est arrivé, et il nous arrive encore d'être dans des situations qui interrogent, d'être devant des décisions à prendre qui sont loin d'être faciles. Les plus impressionnantes, ce sont celles qui touchent notre existence. Pourtant, au départ, tout paraissait si clair et si simple. On se trouvait plutôt en bonne santé, et voilà que la maladie devient la préoccupation majeure de la vie quotidienne. On avait promis de marcher avec quelqu'un en se promettant réciproquement et en toute authenticité, fidélité et amour pour le long des jours qui suivraient. Et contre toute attente, ce projet va rencontrer des limites insoupçonnées et s'avérer impossible à suivre. Alors la longue valse des nuits blanches commence avec son lot de remises en question et de culpabilité. C'est alors qu'on se retrouve à son tour en train de lever les yeux vers des montagnes symboliques, vers une présence invisible mais réelle qui aide à repousser les limites d'un horizon bouché dont on discerne à peine les contours dans la nuit du chagrin, de la déception ou de la solitude, qui aide tout simplement à prendre du recul, qui nous offre cet espace-temps pour se mettre à distance et discerner enfin la bonne solution. Et l'on se surprend à murmurer « D'où me vient le secours ?» Si nous sommes capables de relier notre propre question à celle du psalmiste, alors nous prenons conscience de la façon dont nous pouvons nous sentir être rejoints par cette parole qui va devenir particulière parce qu'on va la distinguer parmi d'autres comme étant une vérité pour nous-mêmes, celle que personne d'autre ne peut penser à notre place ni nous imposer. Et c'est là que nous découvrons comment la marche s'oriente à nouveau, qu'un nouvel horizon se dégage, qu'une solution se propose et qu'une force intérieure est donnée pour avancer sur un chemin certes rocailleux, mais qui est au fond un chemin de liberté. Et c'est ainsi que l'Éternel, en tant que, j'allais dire, dynamisme créateur, garde notre départ et notre arrivée, tous nos départs, toutes nos arrivées. J'aime bien aussi, dans une autre traduction, toutes nos allées et venues, que ce soit dans la journée comme dans la vie. Et si la promesse est faite au psalmiste que son pied ne chancellera pas, alors cette même promesse est faite à moi, à nous, à vous. Vous qui recevez cette parole dans un autre contexte, de ne pas chanceler. La parole rencontre la vérité de nos vies. Nous pouvons marcher et même progresser sur un chemin de foi et de liberté. Amen. Un immense merci au cœur de l'oratoire dirigé par Alexandre Korovitch, accompagné par David Cassan à l'orgue pour ce cantique de Jean Racine, écrit par Gabriel Fauré. Alors nous allons continuer de chanter et nous allons prendre maintenant dans le livre, le recueil Louanges et prières, le numéro 315 de ce cantique. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à vous lever. Prenez place. Je cède maintenant la parole à Aurore Sagliot-Thébo, présidente du Conseil presbytéral, pour quelques annonces.
Merci Agnès. Merci à vous d'être venus si nombreux malgré les 10 km de Paris-Centre qui ont complètement bloqué le quartier pour encore quelques heures. Merci à vous tous d'être en ligne. Du coup, très nombreux, et une pensée tout de suite pour Gérard et Meu Delin, qui sont pour le coup coincés au lit juste au-dessus de nous par le Covid. Donc vraiment une pensée pour eux, parce que les deux sont touchés par le virus. Quelques annonces. Donc, je ne vais pas vous répéter ce qu'il y a dans la feuille rose ou dans la newsletter, juste attirer votre attention cette semaine. Mardi, reprise de Théophile. Alors, jour de grève générale, mais nous maintenons Théophile sur autorité et pouvoir, parce que nous avions dû déjà l'annuler l'année dernière. Et le thème autorité et pouvoir est quand même un thème qui, en ce moment, a beaucoup de sens. Donc, s'il vous plaît, prenez vos chaussures de marche et rejoignez-nous pour mardi soir, séance sur Théophile, autorité et pouvoir. Mercredi, tu as aussi une séance de partage œcuménique, Agnès. Cette fois-ci à l'Oratoire du Louvre. La dernière fois, c'était aussi à l'Oratoire du Louvre. C'est avec l'église Saint-Eustache, mais ça se passe ici, juste en face, à la maison presbytérale.
Nous découvrons le livre d'Ézéchiel.
Oui, merci. Et également, samedi prochain, et je parle également au cœur, parce que samedi prochain, le pasteur Gilles Castelnau, et ça n'est pas dans la feuille rose, rajoute une séance d'éducation, d'initiation à l'hébreu biblique. Alors d'habitude, les séances du pasteur Castelnau, excusez-moi, sur l'hébreu biblique sont les mêmes jours que les répétitions du chœur. Ce samedi, il n'y a pas répétition du chœur, donc vous pouvez être avec le pasteur Gilles Castelnau en train de vous initier à l'hébreu biblique et vous y êtes tous également invités samedi prochain. Dimanche également, alors ça, j'attire votre attention également, nous aurons le pasteur Jean-Marie de Bourquenay qui viendra prêcher dimanche prochain. Vous savez qu'il a été pendant longtemps directeur de la publication et président du journal Évangile et Liberté. Il était pasteur à Batignolles. Il est aujourd'hui directeur du journal Réforme. Donc il vient dimanche prochain prêcher. Et juste après lui, nous avons la chance absolument extraordinaire d'avoir parmi nous Gaël Giraud. Alors Gaël Giraud, vous ne le connaissez peut-être pas, mais Gaël Giraud est donc un jésuite français, directeur de recherche au CNRS, qui a également fondé le département pour la justice environnementale à l'université de Georgetown à Washington qu'il est en train de diriger. Il est exceptionnellement en France cette semaine pour la sortie de son dernier ouvrage qui est sorti hier, avant-hier, qui s'appelle « Construire un monde en commun » et il sera avec nous de 12h à 13h dimanche prochain. Donc je vous en prie, ça vaut vraiment le coup de venir l'écouter et ça fera suite pour ceux qui y avaient assisté à la conférence que nous avions avec Stéphane Lavignotte pendant les journées du patrimoine qui était sur l'écologie. Voilà pour les annonces. Également, je te remercie, excusez-moi, je suis un peu émue, je te remercie Agnès d'avoir cité Samuel Paty dans ta prédication, puisque aujourd'hui même, cela fera 2 ans que Samuel Paty a été assassiné et on a tendance à l'oublier un peu rapidement. Donc pour continuer, excusez-moi, pour progresser dans notre chemin de foi et de liberté, n'est-ce pas Agnès, je crois que c'était ta conclusion, soutenez-nous à l'Oratoire du Louvre et soutenez tous ceux qui œuvrent pour pouvoir croire et critiquer en toute liberté. Je pense aussi au journal Évangile et Liberté qui a quelques difficultés financières en ce moment. Donc il faut les soutenir. Nous-mêmes, nous allons bien, mais comme toutes les paroisses, nous observons effondration due à la crise probablement en Ukraine et aux incertitudes, une baisse de 30% comparée à l'année dernière de nos dons. Alors nous avions fait plus 30% en 2 ans. Donc c'est moins catastrophique que d'autres, mais quand même nous commençons à être un peu inquiets. Donc je vous en prie, si vous voulez que les enfants de l'éducation biblique continuent à avoir une éducation biblique gratuite, si vous voulez continuer à pouvoir, à ce qu'on soutienne le cœur de l'oratoire, c'est important que nous soyons tous vigilants sur les lieux dans lesquels nous luttons pour une liberté. Merci à tous. Bonne journée.
Je rajouterai quelque chose. Cette semaine, j'ai apporté des numéros d'Évangile et Liberté pour faire connaître cette revue à celles et ceux qui ne la connaissent pas encore. Si jamais certains d'entre vous sont déjà partis avec tous les numéros, vous seriez bien gentils d'en rapporter quelques-uns afin de les partager avec ceux qui ne connaissent pas cette revue. Merci. C'est maintenant le moment de l'offrande. Donc, notre Église ne vivant que de dons, les vôtres, alors que votre don soit joyeux, mais qu'il soit donné sans regret ni contrainte. Thank you. unissons-nous dans la prière les uns pour les autres. Éternel Dieu de la vie, nous te prions pour celles et ceux qui sont dans la nuit du doute, qui te cherchent désespérément, celles et ceux que l'avenir paralyse et dont l'espérance est blessée. Nous te prions pour celles et ceux qui ont perdu un être aimé et qui luttent contre le vertige du silence et de l'absence. Nous te prions pour celles et ceux qui connaissent la solitude et qui n'ont personne avec qui partager leur joie, leur peine, leur rire, leurs questions. Nous te prions pour toutes les familles, aussi différentes soient-elles, afin qu'elles soient des espaces de parole et de vie, des refuges où chacun, chacune peut se découvrir inconditionnellement aimé. Nous te prions pour celles et ceux qui réparent, qui soignent, qui accompagnent, qui tendent la main, qui redonnent confiance, tout simplement. Nous te prions pour l'Église universelle, nous te prions pour le dialogue œcuménique, interreligieux, sous toutes ses formes, pour que celles et ceux qui te suivent puissent être témoins, des témoins crédibles, fiables et heureux. Nous te prions pour que l'amour du plus petit de nos prochains demeure la motivation de toutes nos actions et de nos engagements. Et au milieu de notre monde en souffrance, permet que nous puissions être là où nous sommes, des artisans de paix, mais aussi de justice, et encore de fraternité, afin que ces trois mots ne soient pas des mots prononcés en vain. Nous rassemblons toutes nos prières dans celles que Jésus a enseignées à ses disciples. Je vous invite à vous lever. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Mon frère, ma sœur, mon ami, que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel porte sur toi son regard et te donne sa paix. Amen.